Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Alors, c'est intéressant de comprendre le chapelet comme étant une expérience trinitaire où nous sommes en communion avec ce Seigneur que nous aimons, Père, Fils et Esprit Saint, et que c'est Marie de Nazareth, bien incarnée, bien aimée par le Père, porteuse du Fils dans la puissance de l'Esprit Saint, que c'est elle qui est notre maîtresse d'école à ce moment-là, mais que plus profondément nous sommes en Dieu et que nous sommes fécondés par l'Esprit Saint, par chacun des mystères que nous célébrons. Il existe une sorte d'unité ou d'unification dans la contemplation du monde, autant dans sa bonté et sa beauté. Il y a quelque chose de beau et de bon dans notre monde, et Dieu vit que cela était bon. Quand on contemple la bonté et la beauté dans le monde, les sentiments humains sont ceux de la douceur et de la reconnaissance. Et lorsque nous sommes dans la difficile contemplation du monde, dans des actes d'horreur, eh bien, nous sommes dans les sentiments de tristesse qui font pleurer le corps de cette humanité par nos larmes. Ce sont les larmes d'un seul qui pleurent pour tous, comme la joie d'un sourire qui sourit pour tous. Chaque être humain est en communion avec tous les autres. Alors c'est le petit déjeuner qui va arriver, et comme on l'a vécu hier, bien on revoit parfois les mêmes gens et d'autres qui sont arrivés dans ce lieu. Alors il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui quittent, mais on revoit parfois les mêmes gens et les gens nous revoient nous aussi. Alors là aussi, il y a une réflexion qui se fait. Parce qu'on sent à travers les personnes, on sent qu'ils viennent par exemple de tel pays, de telle région, ça se voit. La célébration du bréviaire, avec les psaumes, la parole de Dieu, puis nous célébrons l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, on parle de jeûne, le prophète Isaïe en parle. Et Jésus aussi, quand on viendra dire à Jésus, tes disciples ne jeûnent pas, comme ceux de Jean-Baptiste. Alors Jésus va dire, on ne peut pas jeûner quand l'époux est avec nous. Le prophète Isaïe parle du jeûne comme étant un détachement, d'une certaine façon. Le jeûne que Dieu préfère, c'est de faire du bien. En quittant, en se détachant de l'arrogance. C'est comme cela qu'il parle. Le jeûne que Dieu préfère, c'est de délier les attelages, de faire sauter les verrous. C'est ça que Dieu aime. Et Jésus parle du jeûne, lui, comme étant une expérience d'attachement, on jeûne parce qu'on est attaché et qu'on aime. Le jeûne n'est pas nécessairement une expérience d'un manque physique, mais c'est d'abord une expérience de la souffrance d'une absence. Et Jésus le dira, un jour ils jeûneront. Quand le Fils de l'homme leur sera enlevé, ils jeûneront. Mais tant que l'époux est là, on ne jeûne pas. C'est la noce. C'est la noce. Alors dans notre vie, c'est à la fois la noce, mais c'est à la fois aussi le jeûne, qui est l'expression de l'amour qui attend. L'amour qui espère par-delà l'absence. Et le Seigneur est un peu comme cet époux du Cantique des Cantiques qui se cache pour que la bien-aimée court après. Alors la bien-aimée n'a pas le temps de manger, là. La bien-aimée court après celui que son cœur aime. Le jeûne est ainsi synonyme d'une expérience d'alliance, d'une expérience d'amour. On jeûne parce qu'on aime. On ne mange pas parce qu'on aime. Non pas parce qu'on n'a pas faim, mais c'est parce qu'on aime. C'est un jeûne profond. Je vous propose maintenant la lecture en continu du livre de Serge d'Alins, La couronne de pierre, qui nous plonge dans l'univers des persécutions des premiers chrétiens. Son regard rencontre celui de Claude, venu verser l'eau parfumée sur ses mains. L'enfant scie les paupières et baisse la tête.
« Voilà qui va inspirer nos poètes, » reprend Licinius. « Si d'aventure Marc en meurt, quelle admirable tragédie. Et s'il revient vivant, que de fête en son honneur. »
« Les dieux te protègent, » dit Tarcissus.
« Enfant, les dieux ne peuvent protéger tout le monde. Il faut un vainqueur et un vaincu. » Lorsqu'on menait les chrétiens au cirque pour les livrer aux bêtes, les dieux protégeaient plutôt les panthères ou les lions. Parfois les ours, il n'y a guère que 2 ans de cela, et le spectacle peut recommencer d'un jour à l'autre. Ah, petit maladroit, regarde ce que tu viens de faire. En laissant tomber ton aiguillère, tu l'as bosselé, et ce qui n'est rien. Mais tu as offensé César en éclaboussant sa tunique, ce qui est trop. Réveille-toi, voyons.
« Oui, maître, pardonne-moi. » À genoux, Claude ramasse l'aiguillère et tente d'éponger l'eau répandue sur une peau de tigre. Un autre esclave, largement adulte celui-là et brutal, le repousse. Claude se relève, au bord des larmes, prêt à rentrer sous terre. Pour la seconde fois, son regard rencontre celui de Tarcissus. L'esclave croit lire dans celui du jeune noble une sorte d'encouragement, et même, oui, un peu d'amitié. Alors il refoule ses larmes, ébauche un pauvre sourire et disparaît.
« Tu ne le punis pas ?» dit quelqu'un à Licinius. « Il le mérite pourtant. »« Peut-être. » »« Mais punir est parfois injuste, souvent inutile, toujours fatigant. »« As-tu remarqué ? Il a lâché l'aiguillère lorsque tu as parlé des chrétiens donnés aux bêtes. » »« C'est insensible. » Cela lui passera avec l'âge. Mais si César désire qu'il soit châtié, il le sera sur l'heure.
Tous fixent Galien qui rougit un peu. Non, dit l'adolescent. Tant que je suis sous ton toit, qu'aucune peine, même légère, n'effleure ceux qui s'y trouvent aussi. On loue la générosité du prince et on reparle des chrétiens, cette lèpre de l'Empire, dont jusqu'à ce jour, nul n'a pu venir à bout. Est-il vrai, demande un garçon, que le divin Néron les avait affublés de peaux de bêtes
en tuiles de pois et de résine, avant de les livrer aux flammes pour illuminer la nuit ces jardins du Vatican ? On le dit. Crucifié. Ils éclairaient une course de chars et la fête fut à bord de ton grandiose. Encore que Tacite, qui méprisait les chrétiens, juge sévèrement Barbe d'Airain. Mais laissons là ces fastes des temps anciens. Qu'on apporte du vin ! Et Licinius tint à emplir lui-même la coupe du fils de l'empereur. Une fois morts, les chrétiens descendent-ils eux aussi aux enfers ? Demande un jeune garçon pas beaucoup plus âgé que Tarcissus. Les réponses fusent contradictoires. Pourquoi pas ? Comme nous tous, sans doute. Il ne peut en être ainsi, puisque leur Dieu ne reconnaît pas les nôtres. Quelle importance ? Ensemble sur terre, ensemble aux enfers. Pressé de se prononcer, Licinius se dérobe. Seul, celui qui en revient pourrait nous éclairer. Et je n'en connais aucun. Alors pourquoi la vie nous a-t-elle été donnée si tout s'achève avec elle ? Oui. Pourquoi nous faut-il naître et mourir ? Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? Les chrétiens comme les juifs disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que faut-il croire ? Un peu de rose monte aux joues du maître. D'un geste, il réclame le silence. Nous ne pouvons percer l'écran mystérieux que les dieux ont placé entre les hommes et eux, mais il ne doit y avoir qu'une seule vérité, celle que Socrate, Héraclite et Platon ont peut-être aperçue. Maître, pourquoi y a-t-il des hommes libres et des esclaves ? Tarcissus le Falerne t'attriste. J'espère que le Massic nous rendra ta gaieté. Sur son ordre, on apporte l'amphore de terre cuite, au col soigneusement bouché au plâtre. « Voyez l'étiquette !» dit Licinius. « Ce vin a 12 ans d'âge. César, accepteras-tu la première coupe pour ce premier jour de printemps ?» César accepte, mais Tarcissus insiste. « Maître, qu'est-ce que l'âme ?» L'un des adolescents devance Licinius. C'est ce qui différencie l'homme libre de l'esclave. Seul l'homme libre peut en posséder une. Et pourquoi, s'il te plaît ? Parce qu'Héraclite nous enseigne qu'elle est une étincelle du feu divin qui pénètre tout. L'esclave ne saurait prétendre à cette étincelle. Ceux qui sont nés libres sont par la suite devenus esclaves. Perdent-ils donc l'âme en même temps que la liberté ? Et que fais-tu des affranchis ? Que fais-tu d'Espèce, la déesse de l'espérance, dont le culte est assuré par autant d'esclaves que d'hommes libres ? Un silence, puis à nouveau, pressante, la voix de Tarcissus. « Maître, tu ne nous as pas dit ta croyance ? Pour toi seul, qu'est-ce que l'âme ?» Licinius sourit. Du regard, il fait le tour des convives suspendus à ses lèvres. Soudain, il aperçoit Claude qui a repris son service et l'interpelle. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est toi, petit, qui vas répondre. Qu'est-ce que l'âme, à ton avis ? Curieux, méprisant, ironique ou moqueur, tous les regards se portent sur l'esclave qui s'incline profondément devant son maître. Mais c'est à Tarcissus qu'est dédiée la réponse. L'âme est donné par Dieu à chacune de ses créatures, libres ou serves. C'est elle qui nous permet de croire et d'espérer. Durant la vie, elle est attachée à notre corps mortel. Mais lorsque ce corps est brûlé ou porté en terre, l'âme continue de vivre, car elle est immortelle. C'est pourquoi, ô Maître, vous tous qui êtes ici ce soir, vous ne mourrez jamais vraiment. Licinius sourit encore. Es-tu satisfait, Tarcissus ? Oui, répond avec réticence le garçon qui ne l'est guère, car le maître ne lui a pas répondu. Il croit pourtant avoir entendu dire que bien des siècles auparavant, les patriciens croyaient à l'immortalité de l'âme.
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.